Donc je vais vous présenter quelques réflexions sur, autour de En écho de Philippe Manoury. Réflexion que j'ai intitulée Démonter, remonter en écho, éléments du génétique homme-machine. Démonter, remonter, évidemment, avec le double sens de remonter, resynthétiser et remonter sur scène, refaire entendre et rejouer l'œuvre. Alors, le cadre de recherche dans lequel j'évolue à l'IRCAM, c'est l'équipe service en ligne, qui travaille sur les, dans le cadre de projets AMR nationaux comme ASTRE, de projets européens comme le projet CASPAR. Alors, les œuvres interactives temps réel sont en danger. Max l'a déjà souligné de multiples façons. Évidemment, elles sont soumises à l'obsolescence technologique. Elles dépendent d'un état de l'art technologique instantané qui est multicomposant. C'est-à-dire qu'on a vraiment, pour faire fonctionner une pièce, une œuvre, on doit intégrer très très souvent de nombreuses couches de composants logiciels, matériels, et des dépendances entre ces composants qui rendent la chose, l'édifice, l'échafaudage tout à fait instable. Et ces œuvres ne peuvent plus compter sur les paradigmes culturels stables, en tout cas à une certaine échelle, on va dire, qu'était la notation, d'une part, et l'organisation en famille instrumentale, d'autre part. Et nous nous retrouvons, pour ces œuvres, dans un balancement, on va dire, entre lutherie et organologie. La question est ouverte. C'est pour ça que j'ai mis « et » ou. Puisque les œuvres interactives temps réel, elles introduisent de nouveaux moyens de production sonore, alors qui sont parfois du côté, on va dire, d'un modèle plutôt de la partition, par exemple des outils de suivi, ou plutôt du côté d'un paradigme de l'instrument, hein, tout ce qui est interface de type instrumental. Nous avons également une émergence d'une importante communauté dans le domaine des interfaces technologiques dédiées à l'expression musicale, la communauté NIME, New Interfaces for Musical Expression, a littéralement explosé. Mais il n'est pas encore possible de bâtir des classifications organologiques de ces dispositifs parce que nous n'avons pas de notion de famille d'instruments. Quand je parle de famille d'instruments, c'est la double appartenance, on va dire, la classification. D'une part, les familles d'instruments classiques, elles renvoyaient quelque part au paradigme du quatuor vocal, donc soprano, alto, ténor, basse, et je retrouvais dans les familles instrumentales classiques quelque chose de ce quatuor vocal, de ce modèle, on va dire. Et puis, d'autre part, il y a des paradigmes d'interface communs entre, par exemple, les cordes frottées, les bois, etc. Donc, des paradigmes d'interface de production sonore. Et je n'ai plus du tout... On ne peut plus du tout s'appuyer sur ces deux axes d'approche, on va dire, pour nos instruments et même nos dispositifs temps réel, interactif. Alors aujourd'hui, je vais parler plus avant d'En écho de Philippe Manoury. Donc c'est une œuvre qui date de 1993-1994, qui est pour soprano et électronique temps réel, écrite sur un matériau poétique d'Emmanuel Occard, matériau poétique qui est à caractère érotique. Et je vous propose pour commencer une petite vidéo où le compositeur, on voit Donatien Michel Lansac chanter le début de l'œuvre, et on entend la voix de Philippe Manoury qui présente, on va dire, succinctement son œuvre. Je ne sais plus sur lequel je suis. Enfin, c'était l'autre.
Jusqu'à présent, les éléments, quand on entendait la musique de synthèse, c'était des éléments qui étaient tout le temps préécrit dans une partition dans l'ordinateur, dans un écho, ces éléments-là sont conduits par la voix, et conduits par la voix, par la manière d'interpréter, c'est-à-dire que l'évolution des sons suit l'évolution de ce qu'on appelle les formants de la voix. Et le fait qu'une chanteuse chante des voyelles différentes donne un relief différent au son de synthèse.
Cette vidéo sur YouTube, hein, c'est là où je l'ai pris. Alors, les enjeux pour le compositeur, voilà quelque chose qu'on ne perd pas, en tout cas, si on le retrouve, c'est très très intéressant, c'est les notes de programme de la création. Moi, j'y suis vraiment revenu en me disant, ayant déjà analysé l'œuvre, etc., c'est toujours un point de retour nécessaire. Et donc, dans cette note de programme, Manoury nous dit, j'ai toujours travaillé jusqu'à maintenant sur la... Bon, on est en 1993-1914. J'ai toujours travaillé sur l'instrumental. Maintenant, je veux aborder la complexité et la richesse du phénomène vocal. Et je veux aborder vraiment cet aspect multiple. Donc, il y a des hauteurs, des phonèmes, des bruits, la variabilité du spectre, tout ça m'intéresse. Je cherche une relation sensible, il dit, sur cette chose-là, que j'ai mise en rouge, une relation sensible entre la voix et la machine, s'appuyant sur une polyphonie de comportement. C'est-à-dire, dans la voix, il y a une polyphonie de phénomènes, et je veux une polyphonie de comportement. Et donc, il propose un ensemble de choses très variées, de synchronisation du processeur sur la voix parlée, détection de traits caractéristiques de l'émission vocale, des fricatives, des sons bruités, suivi de la mélodie, etc. Et à la fin du texte, il se projette, il dit ce n'est qu'une étape et ce vers quoi je voudrais aller. Et c'est aussi ça ce qui je trouve très intéressant dans l'intention du compositeur à un instant donné, c'est vers quoi il se projette à un moment donné, au moment où il écrit cette pièce. Et quand on revient à ça, on comprend un peu la trajectoire, l'intention non pas dans son état figé, mais dans son développement possible futur. Donc il se projetait vers la captation de phénomènes complexes, la variation de formes spectrales, la reconnaissance de phonèmes, de microstructures, avec vraiment l'idée d'établir des réseaux de contrôle encore plus fins de la synthèse ou du traitement du signal. Alors, on va écouter un petit bout de la deuxième section, donc... avec une qualité sonore un peu meilleure, c'est l'enregistrement en stéréo. Et puis, voir un petit peu comment c'est fait. Non, ça ne marche pas. Alors, il y a une dizaine d'années, j'avais réalisé, donc c'était une commande de la pédagogie de l'IRCAM, une analyse hypermédia de Daneco. L'idée étant que, pour bien parler d'une œuvre sur support, utilisant des artefacts numériques, l'idéal était évidemment de s'inscrire sur un support électronique. Alors c'est une analyse qui est malheureusement un peu confidentielle. Pour la consulter, il faut être à l'IRCAM, à la médiathèque, pour des questions de droit. Elle n'est pas diffusée à l'extérieur. Alors si on revient à cette deuxième section, le jardin, pareil, pour voir un petit peu comment c'est fait. Voilà. Donc, il y a un aspect donc de capture de hauteur, capture des trois premiers formants de la voix. Et par exemple, on va écouter des petits extraits qui vont nous montrer, voilà, donc sur ce petit extrait, cher 11, cher avril, matinée bleue, on va écouter ce que propose le compositeur.
Allez. Cher 11,
sur le truc, la partition, on quitte la page principale. Bon. Alors sur les événements 17 à 27, par exemple, qui est un peu plus loin dans la partition, le sampler va déclencher des sons de cigales qu'on a entendus tout à l'heure lors de l'extrait, lors de silence ou lors de la détection de fricatives, hein, sur certains mots. On va essayer d'écouter ça. Avoir aussi des effets donc sur certaines notes qui vont être reconnues, hein, des effets d'oscillateurs figés sur l'analyse de la voix lorsque ces notes sont chantées. Par exemple ici. Cette polyphonie de comportement, cette polyphonie de phénomènes en entrée, face à tout ça, et dans l'esprit, voilà, l'esprit c'est de la chose, et l'objectif de la chose, c'est pouvoir remonter en écho dans le futur, dans 10 ans, dans 20 ans, dans un siècle. Allez. Et que préserver ? Que préserver tout ça ? Préserver, ce n'est pas, alors au sens vraiment on entend, préserver, ce n'est pas conserver. Et notre centre d'intérêt, ce n'est pas d'archiver toutes les machines, toutes les configs, tous les logiciels, et tous cette structure multi-composants nécessaire à l'exécution de Daneco. Notre esprit, ce n'est pas ça. Notre envie, ce n'est pas ça. Notre envie, c'est de travailler sur trois axes de recherche. La préservation de traces, d'intentions, l'extraction et la représentation d'informations, et puis la question de l'authenticité, puisque quand on va se réapproprier l'œuvre, on va dire par exemple suite à une migration et à un transcodage, une transcription, une réécriture, quelle qu'elle soit, eh bien, va se poser évidemment la question de l'authenticité par rapport à la version d'avant, par rapport à l'intention du compositeur, etc. etc. Alors, Max a bien montré ça tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on trouve dans un patch Max MSP? En fait, il a été assez sympa parce qu'il ne nous a pas vraiment montré tout le fouillis. Ce que permet Max 5, c'est de bien cacher le fouillis, en fait, et d'avoir un mode clair qui est on présente les choses aux autres et puis de garder son petit grenier tout en bazar derrière.
Rajouter un tableau. Voilà.
Et dans Max, je pourrais dire Pure Data et tous ces environnements, on a plein d'informations non explicites, non modélisées de façon explicite, mais stockées. Alors, l'exemple, on a vu aussi bien le code Max 4 d'un patch qu'on a imaginé aussi les queuelistes qui devaient traîner derrière, là, tout à l'heure. Tout ça, c'est du savoir, c'est de la connaissance non explicitée, non modélisée, mais stockée. Par exemple, si on reprend donc, ce que c'est que le fichier, ce qu'on appelle le patch, c'est-à-dire son fichier en Max 4 ou en Max 5, c'est surtout en Max 4 d'ailleurs, c'est vraiment l'ensemble des opérations, c'est-à-dire c'est le script des actions faites que l'utilisateur sans S d'ailleurs. Ferait à la main pour refaire le patch. Simplement, c'est l'ordinateur qui se rejoue lui-même ce montage du patch. Et des informations non explicites, non modélisées, mais stockées, il y en a plein. Et par exemple, les commentaires précisant la fonction d'un bloc d'objet sont des informations extrêmement importantes. Elles sont emmenées dans le patch, mais elles mériteraient évidemment bien mieux que d'être simplement emmenées comme on met des bagages sur un chariot, on va dire. Et les domaines d'information qui sont mélangés, c'est des domaines totalement mélangés, de la musique, de la musicologie, du traitement du signal, parfois d'autres choses, de l'intelligence artificielle, etc., etc. Oui, j'aurais pu dire, par exemple, dans le jardin, là, de la deuxième section de En Écho, il y a une partie markovienne, il y a un processus qui est modélisé de choix, on va dire, entre deux types d'actions sur l'orchestre électronique de Manoubi. Alors voilà, ça appartient à quel domaine? C'est codé dans un patch, mais c'est un savoir, une connaissance qui est posée là et dont il faut bien prendre en compte puisque ça fait partie de l'intention du compositeur. Alors justement, l'orchestre électronique de Manoubi. Alors là, j'ai une vieille... J'ai une copie d'écran d'une ancienne version qui était celle de l'analyse hypermédia. Et puis, il y a on verra tout à l'heure une version plus récente de 2005. Et puis, au-dessus de tout ça, a été établi donc, par le compositeur, et puis je pense que Serge, tu as dû travailler dessus.
Surtout
par toi, voilà. ce qu'on appelle la PMA Lib, donc la librairie de Philippe Manoubi, avec par œuvre, on va dire, une mise au carré de l'orchestre électronique utilisé dans chaque œuvre. Donc il y a Jupiter, En Écho, Neptune, Pluton, voilà. Merci. Et pour En Écho, donc, une notion très très importante, c'est cette notion d'orchestre électronique et d'avoir comme ça pu isoler, dire dans En Écho, il y a un certain nombre de modules qui sont presque comme seraient des instruments dans une pièce acoustique auxquels on va destiner des partitions et qui vont jouer. Voilà. Alors ces modules sont repéré en haut de... J'ai pas de curseur. En haut, dans le bandeau en haut. Et je vais y revenir. Alors, je suis parti donc pour ce travail de re-rentrer dans la pièce, mais alors justement, ça m'intéressait d'y revenir sous cet angle, l'ayant analysé au point de vue musical et musicologique, d'y revenir quelques années plus tard en me disant, sous l'angle de la préservation et de cette idée de remonter l'œuvre, de la rejouer. Donc je suis parti de la version Stuttgart 2005 et j'ai mis une question qui est, je pense, peut-être destinée à Serge. Toujours d'actualité, point d'interrogation.
Je pense que ce n'était pas Intel.
D'accord. Bah, par exemple, c'est celle qu'on trouve sur la base Mustica. Et c'est celle qu'on votait, quand on veut télécharger. Pardon. Voilà.
Bon, donc...
Intel, oui, d'accord. Et qui daterait de, elle, après 2005.
En fait, on n'a jamais rejoué à l'écran, donc c'est des demandes extérieures.
D'accord.
Que quelqu'un a demandé une version. Forcément, à moins que tout le monde ait encore une.
Voilà, alors bon, j'ai investigué à partir de cette version et j'avais créé donc il y a en 2007 un petit outil d'analyse statique d'un patch qui est Patcher Tools pour faire face tout simplement à un problème qui est dans Max, comme dans Turbata, etc. On ne peut pas avoir de vue synoptique des choses et on ne peut pas voir les choses sauf à rentrer dans les choses. C'est-à-dire, si j'ai un patch qui a des sous-patchs et qui ont même des sous-patchs, etc., il faut aller se promener dedans pour les découvrir. Et donc, on n'avait aucune vue synoptique sous forme d'un arbre avec la possibilité de visualiser, on va dire, selon des niveaux de profondeur, selon une certaine largeur, et puis de faire des tris dans la visualisation, d'avoir un affichage un petit peu dynamique pour aider à la recherche d'un élément. De même qu'on n'avait pas, par exemple, de fonction de recherche. Si je cherche, par exemple, le mot QList, dans Max, c'était vraiment la croix et la bannière. Alors que dans ce petit outil, on a développé un outil de recherche qui permet de renvoyer en plus un ensemble de réponses un petit peu documentées, c'est-à-dire en disant... QList, oui, il y a quelque chose qui s'appelle QList dans tel sous-patch, mais il y a aussi, par exemple, vous avez appelé votre send, vous avez fait send QList, par exemple. Vous renvoyez de l'information par ça. Et donc, là, si on visualise, si on ouvre le patch dans Echo version Stuttgart avec ce petit outil, et bien justement, au niveau 1, on voit, on va dire, les gros sous-patchs, on va dire, les sous-patchs importants. Et je me suis... Alors, il y a plein de choses. Hein. Il y a, par exemple, quelque chose qui s'appelle Simul, qui permet de, on va dire, de pallier les maux de gorge des chanteuses ou leurs caprices éventuels. Donc, il y a de la voix enregistrée qui permet de passer donc, des fichiers audio de chanteuses déjà enregistrées et d'étudier et de vérifier que ça marche bien. Il y a des choses... Vas-y, ça permet, par exemple, de se caler. Alors ça, c'est un problème que tu as évoqué tout à l'heure. D'aller se poser à tel événement au milieu de la partition, à tel endroit. Et les choses qui peuvent nous intéresser plus particulièrement dans cette action de comprendre pour pouvoir remonter... abstraire les choses et les représenter, c'est la partie scores, donc les partitions QList, et puis la partie évidemment DSP qui est assez énorme, puisqu'il y a vraiment énormément de choses, les descripteurs de la voix, l'orchestre numérique que vous avez vu tout à l'heure, et le pilotage des sorties vers les haut-parleurs. Donc là, il y a beaucoup de choses. Alors, exemple d'action. Qu'est-ce qu'on peut faire pour en écho ? Dans le cadre du projet Astray. Voilà. On ne peut pas... Déjà, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire ? On ne peut pas... On n'est pas dans un état de l'art ou de connaissance qui permettrait, comme ça, d'entrer ce patch et par une représentation informatique, des logiciels, une analyse et une reconstruction... de dire on est capable d'en extraire un modèle ou plusieurs modèles qui rendraient compte de son fonctionnement. Ça, c'est pas possible. Aussi, un premier point d'achoppement, c'est la difficulté à représenter l'asynchrone. Ce qu'a dit Serge tout à l'heure. Par exemple, je reviens sur cette petite ce petit choix de Markov là dans le jardin. Est-ce qu'on va faire A, B, A, B, A, B, A, ou A, A prime, on va dire, B, A prime. Ce choix un petit peu de fin ouverte, entre guillemets, pour le représenter, c'est extrêmement difficile. Enfin, on pourrait dire, ben oui, c'est Markov, allez voir Markov. Oui, très bien. Mais, ok, pourquoi pas. Mais l'expliciter et ne pas multiplier comme ça, on va dire, ben tiens, oui, on explique Markov là, et on explique ceci là, et on explique cela, et on explique le traitement du signal, et on explique que c'est le canard harmonizer, etc. Sans démultiplier à l'infini les modèles et les explicitations de ces modèles, on n'aura pas comme ça un modèle ou un ensemble de modèles de l'œuvre. En revanche, ce qu'on peut faire, et là c'est guidé par le travail du Gram sur Faust, c'est isoler des parties synchrones de traitement du son et des parties significatives sur lesquelles il y a vraiment un intérêt artistique, il y a vraiment, c'est au cœur du processus de l'œuvre, et on a un espoir d'arriver à faire quelque chose. Donc, sur ces parties synchrones, l'idée c'est d'aller les décrire en Faust, de les resynthétiser en tirant parti des aspects d'optimisation qui sont proposés dans l'approche Faust, de documenter au passage ces traitements, qu'ils ne sauraient peut-être pas, et évidemment, l'étape ultime, c'est de remonter l'œuvre. Et de. C'est une. Enfin, ce serait une espèce de. Il y a toutes sortes de formes de validation, ça pose la question évidemment de la validation de toutes ces démarches, ça pose la question de l'authenticité. On peut valider, on va dire, d'une façon en se disant, ben, je prends un stimulus en entrée, je m'assure de conditions comme ça, de pouvoir faire un test unitaire sur tel module, etc. À ce stimulus en entrée, j'avais telle réponse dans l'ancien traitement, et je vais avoir telle réponse dans le nouveau traitement, et je compare les réponses. Bon, ça c'est un mode de validation. Mais on ne pourra pas faire l'économie d'une validation artistique en situation de jouer l'œuvre, ou en tout cas des fragments de l'œuvre. Parce que ça, il y aura forcément quelque chose de différent. C'est jamais pareil. Alors, on a isolé, donc, dans l'orchestre électronique de Eneco de Manoury, on a isolé quelques endroits où pourraient se faire ces interventions. Alors, les deux premiers, E-pitch et ELPC, ça concerne l'analyse de la voix en entrée. Et les trois suivants, hein, les PAF, E-Noise, E-Arms, c'est vraiment plutôt du côté génération, production de sons en sortie. Même évidemment si les deux sont liés. Alors si on prend... alors j'ai essayé de mettre dans ce petit tableau ce que faisaient les modules, de façon très sommaire, et les dépendances. Parce que voilà, on est... D'emblée, même si on prend des choses assez simples, on tombe tout de suite sur des dépendances, à des composants multiples venant de multiples origines et à des degrés de maintien, on va dire, de maintenance très variables. Alors, si on prend le e-pitch, donc il va calculer des hauteurs, qui va calculer des descripteurs sur la voix, les hauteurs, les fricatives, les silences dans la voix, eh bien, il y a une dépendance à l'objet fiddle. Il y a une dépendance à l'objet zero cross, des jimmies. Voilà, on est déjà dans deux dépendances. Si on prend la détection des formants dans le LPC, il y a une dépendance à l'objet formant, que Serge connaît bien. Ouais. Voilà, mais alors, en plus Serge est avec nous aujourd'hui, donc peut-être qu'il pourrait nous aider à décrire cette chose-là. C'est pour ça qu'on t'a invité, c'est pour parler de formant utile, en fait.
Pour le faire parler.
Voilà. Et les caméras sont là pour le... Tout à l'heure, Non, mais si, enfin, si tu veux, non, comment tu veux.
Bon, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est le code C qui permet un bouquet qui est disponible, donc ça n'a pas de problème. Sauf que quand je l'ai porté pour Macintosh, j'ai corrigé ce que je croyais être des erreurs de l'Android, que ça ne donnait pas les bonnes valeurs pour moi. Sauf qu'en le corrigeant, ça ne donnait plus les mêmes résultats. Donc j'ai pu réintégrer ce qui était peut-être des erreurs ou peut-être pas, parce que c'est le code de l'univers. Donc il y a une version formant en écho, avec qui ne donne pas des valeurs scientifiquement correctes. C'est une version correcte, mais ce n'est pas celle-là qu'il faut utiliser.
Ça me rappelle juste quelque chose qui n'a rien à voir, mais il y a quelques mois, il y a eu un gros problème de sécurité, notamment chez Debian, pour tous les systèmes de génération de clés publics. Et c'est parce que quelqu'un avait corrigé l'algorithme. Il y avait un tableau qui n'était pas initialisé, ça lui paraissait bizarre, il l'a initialisé à zéro, évidemment, il y avait beaucoup moins d'aléas dans la génération des clés.
Mais si on corrige le bug, c'est plus la même pièce.
Exactement. Ouais.
Une fois que les plus, mais ça n'est plus, parce que les fréquences sont plus basses, même si le...
Et c'était quoi, juste comme ça, par curiosité, le, tu te rappelles le...
Oui, mais en fait, c'est dans les calculs des fréquences, il y avait un log quelque part, donc les fréquences n'étaient pas linéaires.
D'accord.
Et il y a sûrement une raison, Miller avait sûrement une raison, mais il ne documente pas beaucoup ses codes non plus, donc plus haut, ça doit être une erreur. Bon, quand on regardait ce que ça donnait par rapport à un signal de test en entrée, les réponses étaient pas bonnes.
D'accord,
donc, tout ça. D'accord. Donc je l'ai enlevé, je l'ai mis linéaire.
Correct, ça
l'avait. Et Philippe était plus content.
C'est peut-être pas la plus formant avec un S, faut peut-être écrire PH.
C'est ça, non, il y a une version qui s'appelle. Dedans, il y a tout ça en écho formant.
Oui, exactement. Ouais.
Ça, et moi, quelque part, j'ai écrit dans le code ces versions spéciales pour un écho et juste pour un écho. Mais d'ailleurs, on peut trouver dans les packs aussi, tu peux en parler, il y a un petit toggle quelque part qui s'appelle 4x compatible, ça serait bien, ça, parce que pareil, dans la 4x, il y avait des calculs qui fonctionnaient comme ça. Et ça n'est pas pareil. Mmh. Il y a un mode 4x compatible qui doit être encore là. Mais qui est pas besoin d'être utilisé en écho, parce qu'en écho, c'était déjà sur la station de travail.
L'objet a été utilisé par Manoury seulement, ou le compositeur qui a utilisé deux formants dans sa version meublée.
Mais ça aussi, c'est une autre chose. Après, essayer d'aller voir toutes les pièces qui habitent de cette
émission. En fait, on est en train de reproduire avec en informatique les particularismes de ce qu'il y avait en hardware. Tu avais une console de mixage qui sonnait comme ça, tu utilisais celle-ci plutôt qu'une autre, parce que ça sonnait comme ça. En fait, on est en train de particulariser les objets et les librairies.
Et parce qu'en fait, on en a beaucoup discuté, un ordinateur ne calcule pas juste, d'une manière générale. Et donc, tu peux exploiter ces manières de calculer particulières qui ne correspondent pas aux calculs mathématiques exactement. Et donc, si tu les exploites, typiquement, bon, les générateurs de bruit blanc, etc., qui sont basés, qui peuvent être basés sur des particularités des calculs en entier. Il faut modéliser aussi la façon de calculer. Mais ça, ça a une limite, parce que si tu commences à modéliser la façon de calculer sur les nombres flottants, qui, pareil, ne sont pas exactement des nombres mathématiques, qui ont des particularités, tu n'en finis plus.
C'est très concrètement aussi dans les pas, parce qu'il y a une partie où les pas, c'est synthèse formative, et une partie boisée, une partie bruitée. Et la partie bruitée, ça dépend d'un noise stimulé.
Ouais.
C'est pas le même, évidemment. Ouais. Mais, je pense même que sur la NEX, il peut faire un patch avec un truc qui est comme une clé.
D'accord.
Évidemment, ça ne sonne pas pareil, c'est jamais du bon. Mais ça fait partie de la chose. Alors là.
Voilà, ça donne un peu l'ampleur.
Mais sur un écho, par exemple, il y a combien d'objets externes, en gros, qui sont pas en max, censés.
Il n'y en a pas tant que ça. Hein. Je ne saurais pas dire, mais en regardant comme ça dans l'orchestre électronique, il n'y en a pas. Là, par exemple, on en voit 3. Je dirais qu'il y en a un petit nombre, moins de 10.
Enfin, d'accord.
Je sais pas si tu es d'accord, Serge, mais à vue d'œil comme ça.
Enfin, oui.
Qui ne serait pas du max.
C'est un objet externe, c'est vrai, pour un Fendoy Stingray,
oui.
Qui était peut-être un certain objet externe sur la plateforme, ça serait pareil.
Oui, oui. Oui.
Enfin, ça, c'est des objets découverts, c'est du max. Alors, des objets externes spécifiques, oui, c'est forcément des objets.
Après, il y avait des. Il y a la librairie SPW où il y a l'objet, par exemple, Sandhold, dont on avait déjà parlé, et puis aussi des abstractions. Bon, les abstractions, c'est certainement peut-être plus facile à redigérer et redécrire. Donc, sur la partie. Voilà, sur la partie. Génération sonore, oui, on aura effectivement aussi des. Si on fait ce travail, on aura certainement des surprises. La joie d'avoir des surprises. Je conclue, voilà. Donc, ce que je trouve intéressant dans tout ça, c'est. Je ne sais pas très bien l'appeler. Il naît un ensemble d'activités ou une activité globale. Il y a Nicolas Donin qui m'a invité là, à contribuer à un volume de critique génétique. Ça fait partie de ce qu'on fait là, cette espèce de compulsion de sources, de traces, de recherches dans les fichiers, etc. On est clairement dans la critique génétique de l'œuvre. On est dans de l'ingénierie des connaissances, puisqu'on va quand même chercher à représenter des choses avec des formalismes intermédiaires. On est dans de la virtualisation, on est dans la musicologie, et tout ça, bon, ça redéploie pas mal d'activités traditionnelles. Alors, est-ce que c'est une seule activité qu'on pourrait baptiser, je sais pas, enfin, si vous avez des idées de nom de baptême, je suis preneur. On contribue modestement, et sans très bien savoir comment, mais clairement ça contribue à une nouvelle organologie. Voilà, qui peut-être émergera, mais, ou peut-être restera à l'état de micro-organologie éclatée. Ça ne serait pas impossible non plus. La question de l'authenticité, elle reste en suspens, elle reste ouverte, évidemment. Comment évaluer l'authenticité de ce qu'on fait ? Je crois que là, il y a de belles pistes de travail. Voilà, merci.
Est-ce que ça suscite d'autres questions ? J'aurais une question. Parce que, alors, tu parles de. Dans cette démarche sur la préservation par rapport à l'écho, par rapport au fait de réécrire les choses par exemple en Faust, et tu parles de la validation en disant que de toute façon à la fin il faut une validation artistique. Alors là, ma question c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est qu'une validation artistique ? Est-ce que ça reste très flou ? Qui c'est qui l'a fait, cette validation ? Est-ce que c'est le compositeur qui dit « je reconnais mon œuvre » ? Est-ce que c'est
C'est une très bonne question, très difficile à répondre. Mais voilà, ça dépend aussi... On a, par exemple, pour un des cours, on a la chance d'avoir le compositeur qui est encore vivant. Il est un peu loin d'ici, mais on peut imaginer qu'il... Voilà, c'est extrêmement ouvert. Là, j'imagine, par exemple, en écho, convier du compositeur ou réalisateur d'informatique musicale ceux qui ont travaillé sur l'œuvre, par exemple. Mais imaginons, voilà, dans 20 ans, qu'un certain nombre de gens qui ont travaillé sur ces œuvres ne sont plus là ou ne sont plus disponibles ou ne veulent pas le faire, ce qui est tout à fait possible. Hein. Là, on retombe sur toutes les questions d'authenticité qui sont celles, par exemple, je voyais des bagarres énormes là, sur la symphonie fantastique de Berlioz il y a un an suite à une version faite par Joost van Immersel. Là, les gens, ça a occupé une liste de diffusion musicologique pendant 6 mois à peu près. À savoir pourquoi tel corps comme ci, tel machin, est-ce que vous avez le droit de mettre, de permuter la place des instruments, est-ce que vous avez le droit de reprendre la version, etc. Bon, voilà. Le disque qui est paru, qui a fait un peu scandale, enfin en tout cas qui a secoué tout le monde, le gars dit, c'est moi qui ai raison parce que j'ai retrouvé tel manuscrit, tel machin. Bon. Voilà, c'est très, très très difficile. Hein. C'est comme l'authenticité d'une recette de cuisine. Ce qui pourrait être encore pire.
J'ai toujours des débats avec ma mère. Je crois toujours qu'il y a la recette authentique. Je dis, mais non, il n'y a pas de recette.
C'est que c'est vachement délicat cette question parce que
il n'y a
pas de négociation possible. C'est vachement délicat cette question parce que du vivant du compositeur, puis tu as du vivant du compositeur, et moi ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps qu'une pièce sur laquelle j'avais travaillé sur la création, dont j'avais fait la création, était reprise par un autre rime. Et j'étais dans la salle, mais c'était hyper délicat. Alors c'était comment? Oh merde, c'est comment te dire? Et bien moi j'aurais avancé le haut-parleur de 2 mètres en arrière, et puis j'avais pas le même micro, puis c'est pas la même chose, et le compositeur était pas là, donc t'es comme un espèce de garant de l'authenticité artistique, ce qui est hyper délicat parce que, un, c'était pas ma position, quand c'est pas ta position, enfin moi j'évite de la voir, je préfère ne pas la voir. Mais à des moments donnés, c'est pour eux. La différence entre un point de vue technique, dire je choisis tel micro plutôt qu'un autre, parce que moi, clairement, j'aurais pas du tout mis les micros qu'il avait mis. Il y avait un son de corde qui était trop proche, qui ça respirait pas du tout. Moi, ça me déplaît complètement. Enfin, c'est pas l'idée originale, mais ça marchait aussi, mais c'était pas la même musique. Et alors, c'est une question. C'est vrai pour les musiques anciennes, ça c'est une évidence, c'est toutes les interprétations, c'est ça, mais alors, tu vois, qui est le garant de la validation artistique du truc
Un des objectifs, c'est si on peut rejouer l'œuvre, on va pouvoir en multiplier les interprétations. C'est ça qui est de collationner ces multiples interprétations.
C'est ça qui fait aussi que ça reste un art vivant.
Et ça garantit le débat sur l'authenticité, et finalement, ça continue à vivre. Je crois qu'il n'y a que ça. Le pire, c'est évidemment quand l'œuvre ne peut plus être jouée pour des conditions de dépendance à la technologie, à ses conditions de possibilité.
Enfin, par rapport à ce que tu dis, parce que moi je pense que si le compositeur n'est pas là et que tu sais comment la pièce doit sonner, en tant que réalisateur informatique ou ça, tu peux être un peu garant, tu peux avoir cette autorité-là. Tu dis, j'essaye de ne pas me mettre dans cette position-là, mais c'est-à-dire que c'est des choses, des transformations sonores, des façons de faire sonner dans l'électronique. On peut pas écrire, c'est un truc toujours là-dessus, il n'y a pas d'écriture. C'est une tradition orale, et toi, tu as cette connaissance-là. Donc, tu es en mesure, tu as l'autorité, si tu peux dire que tu n'es pas là, pour dire c'est pas comme ça que c'est possible.
Il faut le prendre, mais c'est délicat. C'est hyper délicat parce qu'on reprend aussi des œuvres. Quand on rejoue des œuvres, ça m'est arrivé par exemple de jouer des œuvres de Sarriao qui datent des années 90, 94, qui se jouaient encore à la console avec des racks d'effets. Tout passait en patch et du coup, le mixage n'est pas le même. Enfin, ma version n'est pas la même et je me suis retrouvé moi-même en situation de réinterpréter cette pièce avec les personnes qui l'avaient créé à côté, et c'est, on n'est pas bien dans ses baskets. Pas très très bien dans ses baskets, parce qu'il faut arriver à coller au plus proche de l'œuvre par rapport à ce qu'on comprend sur une partition. Et en fait, sur la partition, on ne comprend rien de ce qui est marqué sur les folies, pour être honnête. On se dit, on voit ben, tel envolé, tel machin, c'est marqué plus de 80% de mixage de reverb. Bon, moi, ça ne m'indique rien du tout, c'est complètement variable. Si j'ai mis les gains à fond dans ma reverb, ça ne sonne pas du tout pareil.
Il faut la réagir.
Non, mais c'est délicat comme situation. Donc, c'est une autorité qu'on peut avoir et dont on peut se débarrasser. Enfin, j'ai du mal.
Moi, j'avais deux, trois remarques sur ce que tu as dit. D'abord, je me posais la question tout à l'heure si c'était la version Sugar qui était la dernière. Alors, effectivement, c'est la dernière qu'on a. Mais ça, c'est assez intéressant parce que il y a une version, comme disait un tel, mais elle n'est pas encore disponible officiellement. Pourquoi ? Parce qu'on ne l'a pas validé, on ne l'a pas joué en concert. C'est-à-dire, ça rejoint la question de par contre, moi, j'ai envoyé à plusieurs personnes qui m'ont demandé. On n'a jamais de retour, c'est qu'ils ont joué, je sais. Ça s'est certainement bien passé. Je ne sais pas si on peut arrêter là ou pas, mais on n'a pas eu de retour en disant on peut la valider. Donc tant que je n'ai pas ce retour-là, je ne peux pas la diffuser. Donc c'est bon, c'est un problème que je vois assez souvent. Mais on a beau demander des retours aux gens qui jouent les pages, ça ne vient pas naturellement. Donc elle n'est pas officielle. Et le jour où on va le jouer, on va maîtriser le fait qu'on joue. Parce que tant qu'on n'a pas joué en concert, on ne peut pas le faire. Et puis l'autre chose, c'est que tu as mentionné le fait que la documentation en écho n'était pas publique pour des raisons de droit. Moi, ça me semble un peu bizarre parce que, par exemple, Philippe m'a trouvé sur son site, il met toutes les analyses de ses pièces et tout ça. Pourquoi pas le mettre sur son site enfin, c'est
Moi je serais ravi parce que c'est un boulot, je ne dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il y a d'autres analystes, d'autres musicologues qui ont fait des boulots identiques sur des œuvres de Sarriao et autres, Harvey, etc. Et tout ça est confiné complètement en médiathèque, visible par 5 personnes à un moment donné.
Et si on va dire, on le met public sur la page de la Non, il le ferait.
Il est où,
problème de droit ?
C'est vis-à-vis de toi.
Moi, j'ai signé un papier à l'époque à la pédagogie de l'IRCAM et avec la médiathèque, comme quoi je m'engageais à ne pas la diffuser, cette analyse, et qu'elle était strictement. Je crois.
Ad vitam
aeternam. Il n'y a pas de durée. Mais peut-être qu'on peut renouveler.
Et tu as signé.
J'ai signé parce qu'on m'a donné de l'argent. Je pense qu'il y a des problèmes de société de droit aussi.
Je pense que c'est valable aussi avec les partitions. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est de. Je suis pas certain de pouvoir donner en inventant un effet pour telle œuvre, pour telle personne, et ça part chez un éditeur, est-ce que je peux remontrer cet effet ? Enfin, je me pose la question.
Qui appartient de. Oui, c'est une bonne question, à qui appartient les faits.
Serge, tu as plus d'expérience que moi là-dessus, tu en penses quoi ?
La question des droits, des patchs, tout ça, c'est
un nœud.
Il y a eu quelques études qui ont été faites là-dessus, mais ça tombe dans aucune catégorie.
En tout cas, bon, un patch, c'est un logiciel, donc c'est un programme informatique, et donc ça doit avoir le même type de traitement que des programmes informatiques. Donc c'est le droit d'auteur en Europe.
Ouais. Sauf que, par exemple, les pages que tu as montrées, il y a une sédimentation de différents réalisateurs de pages, soit 3, 4, 5, et on ne peut pas trouver quelle partie du patch appartient à la personne.
Oui, c'est-à-dire que là, on est typiquement dans un truc open source, Creative Commons, etc. Surtout s'il y a plusieurs couches, parce que tu pourrais aussi.
Toutes les contributions qui sont
prêtes. Tu vois, si aucun statut n'a jamais été défini, quelqu'un reprend mon patch, je vais pas donner mon avis, il le modifie en plus, etc. Enfin, c'est un âge en plein.
Ça pose un autre problème, qui est celui de la responsabilité.
Parce que qui est-ce qui est en charge finalement de, normalement, si tu veux, dans la vie classiquement, qui est en charge de la préservation des œuvres? C'est le visiteur. Il préserve effectivement la question du ring, le coffre, qu'est-ce qu'il veut.
Dans la réalité, c'est le ring.
Mais alors, après, il y a un problème de responsabilité qui se pose. Est-ce que finalement, la responsabilité de la préservation des outils numériques appartient aussi à l'éditeur? Quelque part, on s'est dit de prendre en charge de la précision. Et alors, si je peux me prendre le droit par rapport à ça, c'est l'explique.
C'est
ça, c'est compliqué
parce qu'en fait, les participants, les médiateurs qui participent au patch adhèrent à ce modèle-là. Alors, je pense que ce n'est pas le cas, mais tous les réalisateurs qui ont fait les traces, il y en a certains qui ne veulent pas lâcher leur patch.
Ça, c'est certain. Ouais.
C'est pour ça qu'ils sont difficiles à lire en plus.
Oui. Question qui paye le successeur de patch. C'est bien difficile à développer.
Qui paye le travail
Et pour les reprises, c'est beaucoup plus compliqué que tu passes ton temps. Enfin, moi, je passe mon temps au téléphone quand il y a quelqu'un qui reprend une pièce. Pour expliquer les choses. Même si on documente, même s'il y a un bon derrière, tu passes beaucoup de temps. Et s'il faut faire mettre à jour la version Intel, la version, etc., à mesure que ça avance, la version Max 5, on réécrit complètement les patchs. C'est absolument. En loop, c'est pas un truc qui est intégré dans la logique de production. Absolument.
Ben, un coup caché.